which way is it, Mara?
Je viens d'un pays entre le nord et l'est. Je ne puis rien vous dire d'autre.
Africa!
Il faudra repartir.
It's time for you to let go.
Cher auditeur, en ce 29 décembre, tu es peut-être en vacances, ou peut-être pas, mais dans tous les cas, tu profites sans doute de ces soirées hivernales entre Noël et le Nouvel An au coin du feu ou au coin du radiateur. Tu en profites peut-être pour réapprendre à prendre le temps d'écouter, de prêter l'oreille à une histoire que l'on te raconte ou à ces sons qui t'entourent constamment. Tu n'as peut-être pas tant envie de voyager en ce moment si tu m'écoutes bien installé dans ton fauteuil ou dans ton lit, et ça tombe bien, car ce que je te propose aujourd'hui, c'est un voyage par les oreilles.
Elle est là, elle me réveille comme un essaim d'abeilles, la radio. Ma radio.
Et oui, cher auditeur, cette quatrième émission sera un peu spéciale et placée sous le signe du son en voyage, et plus précisément, du son des villes.
Avec ses ritournelles.
En cette période de fête, je ne reçois pas d'invités, du moins pas d'invités présents avec moi dans le studio de transmission. Mais vous entendrez pourtant trois voix en plus de la mienne. Trois voix qui racontent leur passage dans une grande ville. Nous partirons de Paris, nous traverserons l'Atlantique jusqu'à Montréal, puis le Pacifique, direction Tokyo, avant de conclure par une escapade à Phnom Penh. Mais tout d'abord, vous n'échapperez pas aux actualités voyageuses, cette petite chronique par laquelle débute chaque émission depuis la toute première, il y a maintenant un mois.
Actualité.
Voyageuse. Et aujourd'hui, je vais rester dans le thème de cette émission en vous parlant de radio, grâce à France Culture et à sa semaine spéciale Explorateur qui touche à sa fin aujourd'hui. Plusieurs émissions ont consacré leur semaine à cette thématique hautement inspirante, et notamment le Réveil culturel, les chemins de la philosophie, la fabrique de l'histoire et Culture Monde. Alors je suis loin d'avoir tout écouté, mais je suis sûre que vous êtes comme moi et que vous podcastez vos émissions préférées. Ce matin, dans la Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin a reçu l'historien Peter Frankopan qui a exposé sa volonté de construire une histoire globale et moins européocentrée, en prenant l'exemple des explorateurs sur les routes de la soie. Si vous êtes plus amateur de littérature que d'histoire, vous pouvez écouter La Compagnie des auteurs, qui a évoqué un auteur par jour dans l'ordre, Jules Verne, Stevenson, Nicolas Bouvier et Jack London. Et enfin, je vous conseille la série d'émissions des Chemins de la philosophie, intitulée « Dans la tête de trois explorateurs », J'ai commencé la série donc, d'émissions à rebours en écoutant la troisième émission d'abord, consacrée à Nicolas Bouvier, dont on vous parlera forcément à un moment dans « Il faudra repartir ».
He adored New York City. He idolized it all out of proportion. He romanticized it all out of proportion. Better. To him, no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin. Now let me start this over. Chapter one. He was too romantic about Manhattan, as he was about everything else. He thrived on the hustle-bustle of the crowds and the traffic. To him, New York meant beautiful women and street-smart guys who seemed to know all the angles. Corny, too corny for a man of my taste. let me try and make it more profound. Chapter one. He adored New York City.
Ce qu'on entend en ce moment, c'est l'ouverture du film de Woody Allen, Manhattan. Comme on le voit dans les hésitations du héros écrivain qui essaye d'écrire sa vision de la ville effraie, elle fascine et surtout elle inspire. Depuis longtemps, peintres et écrivains ont fait d'elle un symbole d'une modernité tantôt exaltante, tantôt effrayante. Au cinéma, Dziga Vertov a livré dès 1929 le portrait d'une ville en mouvement dans L'homme à la caméra. Quel art semblait alors plus à même de montrer la ville que le tout jeune cinéma ? La ville, c'est le mouvement, c'est l'image. Mais ce sont aussi des sons, comme ceux que Steve Reich utilise comme autant d'instruments de musique dans sa création musicale City Life. C'est donc de voyages urbains que je vais vous parler et de voyageurs qui ont choisi le son pour leur portrait de ville. Pas par la musique comme Steve Reich et son City Life enregistré en 1995 et dont on vient d'entendre un extrait, mais plutôt par le récit. Vous allez entendre quatre carnets de voyage sonores ou cartes postales auditives, comme vous préférez les appeler. On va commencer tout de suite en partant de Paris avec une création de Manon Bocquin qui nous emmène pour 3 minutes de voyage sonore dans la capitale. Écoutez.
Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'endort plutôt. Je sors. Mes yeux sont encore embués de sommeil. La rue est calme, la rue est vide. Un chat par terre pose, fier, puis s'enfuit. De la musique au loin. Belleville a l'air fatiguée. Je croise des solitaires qui rentrent chez eux, mais aussi de plus chanceux qui reviennent à deux. Leurs yeux aussi sont vidés, mais eux ne se sont pas encore couchés. Le bruit du moteur se rapproche, le bus a pris de la vitesse dans cette grande descente. Je ne suis pas la seule à l'attendre. Au moment d'entrer, la même question qui se pose encore. Bonjour ou bonsoir ? Le soleil n'est pas encore levé, mais après tout, je suis réveillée. Des voix enivrées s'élèvent à l'arrière. Mieux vaut rester au calme, devant. Le tissu vert jaune délavé des sièges ne me dit rien qui vaille, mais je m'assieds. Dans ce bus, j'ai vu le portrait de Dorian Gray. J'ai joué avec Dostoïevski. J'ai même rencontré Anna Karénine en Russie. Et j'ai attendu Godot, encore, toujours. D'ailleurs, est-il arrivé ? De rive droite à rive gauche. Tout le monde dort-il ? Des amoureux entrent, les regards pénétrants. Plus rien n'existe pour eux. Je me sens seule. Dernière ligne droite. Il faut descendre, traverser le pont. La vue est si belle.
Qu'est-ce qu'un carnet de voyage sonore ? On me pose souvent la question quand j'utilise l'expression. Eh bien, vous venez d'en entendre un exemple avec ce son de Manon Bocquin intitulé « Il est 5h, Paris ». Un carnet de voyage sonore, c'est d'abord un récit qui nous fait entendre la voix du voyageur au sens propre comme au sens figuré. C'est un savant mélange de voix, de narration, de bruits et de musique qui nous raconte une histoire et surtout qui nous entraîne dans un univers où l'on peut plonger les yeux fermés. Cette création a été réalisée pour un concours lancé par Arte Radio et organisé chaque année depuis 3 ans. Le thème « Envoyez la carte postale sonore de votre été ». Une création courte pour raconter une histoire de voyage en moins de 4 minutes. C'est grâce à ce concours que j'ai aussi commencé à adopter ce format de création sonore en voyage. Une carte postale sonore, c'est quelque chose qu'on peut partager et qui rend plus présent le souvenir de voyage qu'on raconte. Un enregistreur sonore est plus discret qu'une caméra. Il peut se glisser partout. Et quand je voyage, je ne me sépare jamais du mien. Apparemment, je ne suis pas la seule. Nous allons maintenant suivre une autre voyageuse, qui est en plus une lauréate Zelidja. Si vous avez écouté les précédentes émissions, vous savez de quoi il s'agit. Betty a voyagé un mois au Québec. Elle raconte son dernier jour de voyage.
C'est le dernier jour. Je vais partir d'ici une demi-heure. L'avion part à 22h de Montréal. J'ai envie de partir. Et je sais pas si c'est parce que j'ai envie de rester en voyage ou si c'est parce que l'endroit me plaît beaucoup. Si c'est ce que je fais là-bas, par ici, qui me plaît. Si c'est genre ce que j'ai vécu, ce que je suis devenue, qui me plaît ou pas, je sais pas encore. Ouais. Un peu perdu. Peut-être un peu plus qu'avant. Non, peut-être pas. Je sais pas. Je pense qu'il y a des choses auxquelles j'ai trouvé des pistes et d'autres pas. Bah, tout simplement. Je m'étais dit que j'enregistrerais mon dernier jour. Parce que j'ai pas du tout enregistré régulièrement. Donc je me suis dit au moins le dernier jour. Mais en fait, c'était peut-être une mauvaise idée. Je sais pas. Je sais que j'ai pas envie de prendre l'avion. On a fait quoi aujourd'hui? On est allé au bord du canal de la Chine, qui est à Montréal et pas en Chine. On est allé au marché à Twitter. Et c'est à peu près tout. Après on est remonté, on est allé à Juliette et Chocolat. J'ai fait que manger de la journée. Au moins un truc qui a pas changé, je continue de manger. Ouais, il fait super beau. Il fait bon et je crois que ça va. Je pense que ça va aller, je pense que ça va. C'est vrai qu'il y a un début d'énergie. En fait, c'est ça, en fait, c'est que j'ai l'impression d'être sur une sorte de rampe d'accélération en étant ici et que j'ai pas réussi à la prendre. Ou qu'il m'aurait fallu juste plus de temps pour y accéder. Ou que ça mettra plus de temps autre part qu'ici. Je sais pas. Ouais, c'est ça qui est peut-être un peu frustrant. Le fait que je trouve des pistes. Je trouve des. Ah, des fourmis volantes. le fait que. Ouais. Que je vois qu'il y a quelque chose d'accessible et quelque chose qui est vraiment juste à portée de main et qu'en fait je l'ai pas attrapé et je suis pas frustrée de pas l'avoir attrapé, mais je suis frustrée de pas pouvoir rester et d'y aller à mon rythme pour attraper la chose. Je sais pas trop quoi penser de ces jours, mais je crois que j'ai trouvé une sorte de sérénité quelque part. J'ai un peu peur de perdre ce que j'ai trouvé ici, mais si je le perds, je m'en rendrai compte, je pense, et je repartirai autre part, ou je reviendrai, je sais pas. Mais j'ai confiance en le fait que je le verrai si je me perds. et ouais, je pense qu'il y a plein de choses, plein de bonnes choses qui continuent de se faire. Ouais.
Si je me perds, je repartirai autre part. Ça, c'est complètement dans le thème de l'émission. C'était donc Dernier jour à Montréal de Betty Durieux. Betty parle à son enregistreur, comme je le faisais aussi quand je n'avais pas le temps d'écrire en voyage. Parler à son micro, c'est un peu se parler à soi-même, pour conserver ses pensées qu'on a en voyageant et qui sont parfois précieuses après le retour, quand on cherche à revivre le voyage sans bouger de chez soi. Un voyage immobile. C'est aussi ce que propose Clément Baudet, qui a gagné en 2015, non pas le concours d'Arte Radio, mais un autre tout aussi intéressant, c'est-à-dire le concours de carnet de voyage organisé par Libération et LAPAGE, l'association pour l'aide aux jeunes auteurs. C'est donc un concours de carnet de voyage organisé depuis 2010, il me semble, avec plusieurs catégories. Donc il y a texte, photo, dessin et enfin le son. Clément Baudet a réalisé une belle carte postale sonore qui entraîne l'auditeur dans une sorte de course au cœur de Tokyo. Il a mis en scène son récit en s'inventant une correspondante qui lui écrit de Tokyo. Je lui laisse la parole.
Elle m'écrivait de Tokyo. Elle m'écrivait de cette ville qui l'avait tant fascinée et qui continue de la surprendre. Elle m'écrivait. Dans le quartier de Shinjuku, coincé entre d'immenses buildings, des commerçants résistent à la verticalité des lieux. Quatre étroites ruelles éclairées par des lampions rouges. Les Japonais viennent en costume se serrer dans des échoppes pas plus grandes qu'un mouchoir de poche. On y mange des brochettes de viande, cuites au feu de bois ou des ramen, et engloutir quelques verres de bière. Elle m'écrivait de la gare de Shinokachimachi. Les mélodies du métro de Tokyo me rappellent mon enfance. Chaque station possède ses propres notes, localisation sonore qui compose ma partition quotidienne. Dans les wagons, les jeunes filles se remaquillent en utilisant comme miroir l'écran de leur téléphone portable. Le soir, à l'heure de pointe, ceux qui ont réussi à s'asseoir s'endorment presque tous, bercés par le rythme de la rame. Elle m'écrivait. Ce soir, comme deux fois par semaine, je suis allé au Santo. Ces bains publics où les Tokyoïdes se rendent après le travail. Je me suis déshabillé et j'ai pris ma douche dans la salle commune, assise sur ces sièges en plastique à ras du sol. Dans le miroir, en face de moi, j'ai croisé le regard de cette japonaise, nue comme les autres, qui m'avait montré la dernière fois les bassins à l'extérieur. Alors, le corps plongé dans les eaux fumantes, nous sommes sortis toutes les deux, sans un mot, contempler la lune. Elle m'écrivait. J'aimerais te faire ressentir la gentillesse des Japonais, leur attention délicate, leur respect envers ceux qui ont fait le voyage jusqu'à leur archipel. Ce n'est pas un peuple austère, bien au contraire, mais un peuple joyeux et raffiné, qui a développé une sensibilité toute particulière que je cherche toujours à décrire. Elle m'écrivait. Le dimanche, les jeunes se retrouvent dans le parc Yoyogi, dans le quartier Harajuku. Ils répètent avec entrain d'étranges chorégraphies. À côté, des groupes de chorales s'exercent à l'extérieur. C'est là que j'ai découvert l'existence du rockabilly japonais. Deux gangs de rockers, santiags et vestes en cuir, arborent fièrement leurs bananes et leurs coiffures gominées. Ils se déhanchent ici toutes les semaines jusqu'au coucher du soleil. Je suis resté assise là, plus d'une fois, à regarder leurs figures et leurs gestes. Elle m'écrivait. Sous les rames du métro de Ueno, les Japonais se pressent pour faire leur marché. Œufs de poisson, chaussures, algues séchées. La polyphonie des vendeurs a le pouvoir de me faire oublier l'immensité de la ville. Tokyo, c'est autant de quartiers que de petits villages. Elle m'écrit de Tokyo. Ce matin, je me suis perdu dans le cimetière de Yanaka. J'ai imaginé mes lettres comme ces lattes de bois couvertes de caractères qui sont posées sur les tombes. Que restera-t-il de mes souvenirs du Japon ? Depuis, je l'imagine. Je l'imagine déambuler sous les néons criards de Kabukicho, regarder les ramasseurs de feuilles dans le parc de Chiyoda, ou assise à côté de cette japonaise, perdue dans cette ville qu'elle a gravée à coups de mots et de sons dans mon imaginaire. C'est peut-être là que restent aussi les souvenirs. Y aura-t-il seulement une prochaine lettre ?
C'était « Elle m'écrivait de Tokyo », un carnet de voyage sonore de Clément Baudet, lauréat du concours 2015 de carnet de voyage, de Libération et de La Page. Alors, un rythme assez rapide, je vous avais prévenu, mais qui a le mérite de nous entraîner dans un tourbillon de sons, de bruits capturés dans les rues de Tokyo. Cette recherche de sons est un prétexte à l'errance urbaine et permet souvent de faire naître le dialogue avec ceux que le micro intrigue. Ça, c'était moi avec mon micro dans un bazar en Ouzbékistan en train d'essayer d'aligner 3 mots de russe pour faire comprendre à deux vendeurs d'épices pourquoi je me balade avec un micro. Ils comprennent le mot dictaphone, heureusement qu'il y a des mots transparents. Mais restons encore un moment à l'est de l'Asie, car je vous amène vers notre dernière étape, Phnom Penh, la capitale du Cambodge. En 2015, j'ai passé 3 semaines dans le cadre de mon premier voyage Zelidja. J'ai travaillé dans un petit cinéma à Phnom Penh, en réalisant un documentaire radiophonique sur la situation de la production cinématographique au Cambodge. C'était la première fois que je sortais d'Europe, et bien sûr, ça a été une expérience extraordinaire. En voici un petit aperçu. Je longe les bords du fleuve qu'il y a encore 5 semaines, je confondais avec le Mekong. La nuit est tombée, mais Phnom Penh ne dort pas. L'obscurité laisse deviner la surface immobile de Tonle Sap. La circulation sur le Riverside est plus calme le soir. Mais je dois tout de même zigzaguer entre les tuk-tuks et les stands de marchands de rue. Sur ma droite, la rive, où des groupes de promeneurs tardifs semblent tenir conseil, assis sur le muret les séparant de l'eau. À ma gauche, la ville et son éclectisme. Je dépasse de nombreuses échoppes en tout genre, beaucoup de restaurants, quelques rues perpendiculaires. Le palais royal et son immense photographie du roi fixée à un grand support lumineux. Cette vision, pour le moins kitsch, me rappelle ma découverte de la veille au Luxe, le plus ancien cinéma encore ouvert à Phnom Penh. Je ne savais même pas quel film j'y venais voir. Une de ces séries B cambodgiennes dont je n'ai pas pu lire le nom écrit en khmer sur l'affiche. Je discutais avec un spectateur quand le drapeau du Cambodge apparut sur l'écran. Avec lui, les paroles de l'hymne national diffusées dans la salle. Un véritable karaoké.
C'est notre hymne national.
And you have to sing it?
But in fact, before we starting moving time.
En fait, avant de commencer le film, on doit se mettre debout et le chanter tous ensemble. Mais ici, on ne respecte pas les règles.
J'apprécie ma promenade le long du Tonle Sap. Je tente d'en remarquer chaque détail. Je dépasse une pagode que j'ai maintes fois traversée en journée. Un îlot de tranquillité au milieu d'une capitale survoltée. Un village dans la ville. De l'autre côté, un immense hôtel dont la silhouette rectiligne défigure la vue. Et des lumières. Les quais sont de plus en plus calmes à mesure que je m'éloigne du centre du quartier et des rues les plus animées. J'arrive finalement à une sorte de petite esplanade où tout mouvement a cessé. Non loin de là, un restaurant diffuse une vieille chanson populaire khmer, d'avant les Khmers rouges. Je descends de vélo et marche jusqu'à la rive. À une dizaine de mètres, quelques rats jouent avec des détritus. Un chien errant fait mine de s'approcher. Peu confiante envers ce dernier, je retourne à mon vélo. Je passe devant 2 prostituées assises sur l'un des rares bancs du quai. À quelques mètres, un type que j'identifie comme leur Mac semble les surveiller. Phnom Penh est décidément une ville pleine de contrastes, où l'on trouve le meilleur et le pire. Une belle soirée, la mélancolie d'une musique mère des années 60, et pourtant quelque chose de sordide qui imprègne l'endroit. Phnom Penh est ainsi. On ne peut ni s'extasier naïvement devant elle, ni se montrer insensible à ses charmes. Sentiment toujours partagé. Je remonte sur mon vélo et fais demi-tour. Un retour avant le retour, qui semble annoncer mon départ de demain. J'ai l'impression de quitter le Cambodge une première fois, en laissant derrière moi cette esplanade. La saison des pluies n'en est qu'à ses débuts, et c'est en quelque sorte la fin de mon été. C'était ma dernière nuit à Phnom Penh. Ma dernière nuit à Phnom Penh ne s'est pas passée exactement comme ça. En fait, c'est plutôt un condensé de souvenirs dont j'ai fait un récit avec plusieurs éléments du voyage qui m'ont marqué, plusieurs éléments sonores comme ces chansons khmer que je continue à écouter maintenant comme une sorte de souvenir de mon voyage qui reste. Comme Betty, j'ai consacré ma carte postale sonore au dernier moment du voyage. C'est aussi cette émission qui touche à sa fin Et je remercie mes trois invités invisibles du jour, Manon Boquin, Betty Durieux et Clément Baudet, qui m'ont autorisé à diffuser leur création. Merci aussi à toi qui m'écoutes. Nous nous retrouverons le 12 janvier et nous parlerons à nouveau de son et de voyage, mais cette fois aussi de l'Iran et peut-être un peu de l'Asie centrale avec Clément Osé et son site internet Le Baladographe. D'ici là, vous pouvez aller voir un peu ce dont il s'agit, c'est très intéressant. Vous avez entendu aujourd'hui 4 portraits de ville. De Phnom Penh, nous rallions Hanoï avec un 5e portrait passionné, celui de la grande Sophie dans l'album Nos Histoires. À bientôt.
Dans le rétro, je regarde si je t'aperçois. Hanoï, Hanoï, je me souviens. Ton visage, ton parfum, tes ruelles aussi. Je te regarde passer, je suis chez toi. Hanoï, Hanoï, tu me retiens. Tes typhons pleurent, tes romains, la pluie dégringole. Autour du lac, j'entends comme des bruits qui résonnent. Quelle est cette autre personne? Ton cœur qui klaxonne.